les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Nous étions en 1972, en septembre, 3 mois avant la sortie du dernier tango à Paris. Film dont il n'allait du reste pas être question au cours de l'entretien que Bernardo Bertolucci avait accordé à Roger Pilaudin, quelques mois plus tôt sans doute, à Rome, bien loin de Paris. « Rome, j'ai beaucoup de difficultés à y vivre », disait le réalisateur né à Parme. « Rome est la ville la plus fasciste d'Italie ». De sa famille, de son amitié avec son voisin, Pasolini, de ses débuts au cinéma, de l'influence de Godard sur sa création, les sujets ne manquaient pas les 20 et 21 septembre 1972, lorsque fut diffusé sur France Culture ses carnets romains.
Del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva scura che la diritta via era smarrita.
Carnet romain, aujourd'hui Bernardo Bertolucci, fils de poète, frère de poète, poète lui aussi, mais plus connu comme cinéaste, ex-assistant de Pier Paolo Pasolini et auteur de Prima della Rivoluzione, Le conformiste, La stratégie de l'araignée. Bernardo Bertolucci, rencontré à son domicile au perché de la Via del Babuino.
Je suis né à Parme, c'est une petite ville de province, mais quand même une petite capitale autrefois. Ma famille est venue à Rome quand j'avais l'âge de 11-12 ans.
On n'est pas un pur romain.
Non, pas du tout.
Non.
Je suis un peu là en exil.
Et votre père faisait quoi?
Mon père est poète. On habitait à la campagne. Je suis un peu mûri dans un contexte de blé, de tomates et des livres de poèmes.
Et vous avez des frères, des sœurs?
J'ai un frère qui est poète aussi et qui vient de commencer le métier de metteur en scène, qui vient de faire un film en Italie.
Il s'est mis à faire de la mise en scène parce que vous faisiez de la mise en scène? Il est plus jeune?
Il est plus jeune, oui, il a 24 ans. Mais je crois que c'est un peu le parcours que moi aussi j'ai fait. C'est-à-dire, quand on a été élevé un peu dans l'odeur de la culture, comme ça, au début, on essaye d'imiter l'origine, donc d'imiter le père, et puis on essaye de s'en tirer, de faire le contraire. Donc, je crois que tous les deux, soit moi que mon frère, on a un peu choisi le cinéma juste pour s'éloigner de ce qui était au début, disons, la poésie.
Oui. Et puis, peut-être que la poésie ne vous paraît plus, à vous comme à votre frère, un mode d'expression?
Non, pas du tout. Moi, j'ai une grande nostalgie. Moi aussi, j'ai écrit des poèmes. J'ai publié un livre de poèmes en 1962, qui je considère un peu comme le tombeau de votre moi comme poète.
Ah ouais.
C'est-à-dire, j'ai publié le livre. En même temps, j'ai commencé mon premier film, en 1962, justement. Et du moment que je tournais les premiers mètres de pellicule, j'ai fini complètement d'écrire des poèmes. C'est une expérience qui m'a beaucoup influencé comme metteur en scène, mais qui est complètement finie. Même si je dois avouer, j'ai une grande nostalgie de la solitude dans laquelle un poète travaille. Et j'envie beaucoup le poète.
Mais alors, pourquoi avez-vous choisi le cinéma particulièrement?
Moi, je crois que C'est pas nous qui choisissons les choses, c'est plutôt les choses qui choisissent nous. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer le cinéma encore assez jeune. Et un jour, j'habitais dans la même maison où habitait Pasolini aussi. J'étais très ami de Pasolini, qui était aussi ami de mon père, comme ça, on se connaissait très bien. Je l'ai rencontré dans l'ascenseur un jour. Il m'a dit, je vais commencer mon premier film dans quelques mois. Est-ce que tu veux être mon assistant? Moi, j'étais très emballé immédiatement, tout de suite. J'ai accepté, évidemment. Et j'ai eu ma première expérience de cinéma réel, pratique, disons.
À l'état brut, tu es.
Oui. C'était très intéressant parce que Pasolini faisait son premier film.
C'était quand?
C'était en 61. Le film était Accattone, le premier film de Pasolini.
Pasolini avait déjà une réputation, lui, comme écrivain.
Oui, il avait déjà publié, je crois, ses œuvres les plus importantes, soit comme poète, soit comme romancier. Et l'expérience fut assez extraordinaire parce que, justement, comme je venais de dire, Pasolini faisait son premier film. Moi aussi, j'étais un assistant qui faisait son premier film. Donc, aucun des deux avait une expérience pratique du cinéma. Moi, j'ai assisté, évidemment, à la naissance d'un metteur en scène. Mais j'ai assisté en même temps, dans quelque sens, à la naissance du cinéma. Parce que pour Pasolini, faire son premier travelling, c'était découvrir un langage nouveau, donc presque l'inventer. Donc le premier gros plan ou le premier travelling ou le premier mouvement de caméra panoramique, etc., de Pasolini, c'était vraiment le premier gros plan travelling panoramique de l'histoire du cinéma. C'était comme l'invention d'un langage. C'est un peu ce qui se passe quelquefois quand quelqu'un fait son premier film. En venant d'un autre milieu, d'expériences complètement différentes, c'est-à-dire de l'expérience littéraire. C'était là, pour lui, la découverte du langage du cinéma, donc l'invention du langage. Un an après, j'ai fait mon premier film.
Très vite alors?
Oui, j'ai commencé très vite. J'ai fait mon premier film, je crois, à 21 ans à peu près.
C'était quoi?
C'est un film qui s'appelait La Comare Secca. En France, je crois que quand le film est passé, je pense à la Cinémathèque ou quelque part comme ça, avait été appelé ou bien la Comare Sèche ou bien la Camarde, c'est-à-dire c'est la morte.
Hein. La Camarde.
Oui, en dialecte romain, la Comare Secca, ça veut dire la morte, c'est la vieille femme sèche, très maigre, donc c'est le squelette qu'on voit représenter dans toutes les églises baroques ou comme ça. Ça venait d'un petit sujet de Pasolini, d'après lequel je fais un scénario, et après je fais le film.
En somme, comme vous le dites, vous avez débuté ensemble, mais est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, Pasolini a été votre maître?
Je crois que si Pasolini a eu une influence sur moi, il l'a eu surtout dans la période où j'écrivais des poèmes. Pour moi, c'était en 57, 58, 59, c'est-à-dire les années où j'écrivais, encore très jeune, mais j'écrivais des poètes assez sérieusement. Pasolini était le poète italien qui m'intéressait le plus. Pour ceux qui regardent le cinéma, non, je crois que j'avais pensé et réfléchi beaucoup plus au cinéma, beaucoup plus que lui, c'est-à-dire... Je rêvais au cinéma avant que Pierpaolo décidait de faire son premier film.
Alors justement, ce qui serait intéressant de savoir, c'est avant de commencer vous-même à faire des films, quelle idée vous faisiez-vous, vous, dans la situation que vous vivez en Italie, du cinéma que vous aviez envie de faire?
Évidemment, quand on pense au cinéma sans le faire, c'est plutôt une sorte de rêverie qu'on fait. On est complètement décalé de ce qui est la réalité du cinéma, mais je suis allé pour la première fois à Paris en en 58, je crois, ou 50, non, en 59. Et j'ai vu le premier film de Godard, À bout de souffle. Ce film m'a très impressionné, et plus qu'impressionné, m'a fait réfléchir pour la première fois vraiment sur le cinéma à un niveau qui n'était plus le niveau mythologique, mythique, disons.
De la rêverie.
De la rêverie et de la rêverie sur le cinéma américain, etc. Ouais. Pour ça, je trouve, et pas seulement À bout de souffle, mais tous les films qu'il a fait après, Godard a été fondamental pour tout le cinéma. Il y a des metteurs en scène de 80 ans américains de Hollywood qui avaient fait de centaines de films avant et qui, sans s'en rendre compte, ont été dans quelque sens changés par Godard, c'est-à-dire par la révolution que Godard a fait à tous les niveaux au cinéma. Et donc, en Italie, je ne sais pas, parce qu'en Italie, on était encore sous l'héritage un peu lourd du néo-réalisme. Et le cinéma de Godard, c'était un cinéma plutôt d'idées, un cinéma plutôt idéologique. Je rappelle aussi avec Pasolini que j'ai envoyé voir À bout de souffle pendant le tournage de Accattone, du premier film de Pier Paolo. Le film est passé dans un petit cinéma de banlieue, à côté de la banlieue où nous on tournait. Et il est revenu en me disant que j'étais fou, que le public populaire vers lequel Pier Paolo avait une attitude un peu mythique, avait rigolé pendant tout le film, se moquait du film. Puis, lentement, Pier Paolo et tous les autres qui avaient refusé le premier film de Godard, lentement, ils ont compris aussi que c'était très important, oui. Comme ça. Bon, je crois que, surtout avec mon deuxième film qui s'appelle Prima de la Rivoluzione, j'ai pu parler le cinéma, c'est-à-dire faire le cinéma, d'une façon plus autonome.
Prima della Rivoluzione est né comment?
C'est un film qui se passe à Parme, c'est-à-dire dans la ville où je suis né.
C'était le retour aux sources.
Ou bien le retour aux sources, ou bien quitter les sources. C'est-à-dire, peut-être c'est un film avec lequel, d'un côté, je suis revenu à mes sources, de l'autre côté, j'ai fermé avec une obsession qui était l'obsession de cette ville, avec sa culture, etc. Et c'était évidemment le premier film dans lequel j'ai pu exprimer des expériences directes.
Alors, pour un jeune cinéaste, il nous paraît à nous assez étonnant qu'un jeune cinéaste qui va un peu travailler à l'écart de la production courante trouve assez facilement le moyen de s'exprimer par le cinéma. Ou alors, est-ce que c'était pas si facile que ça?
C'était pas du tout facile, comme vous croyez. Le début a été très facile. Le premier film a été fait dans des conditions normales. Pour faire le deuxième, Prima de la Rivoluzione, j'ai trouvé quelqu'un à Milan, le propriétaire d'une grande industrie. Je l'ai convaincu, il m'a donné un peu d'argent, on a fait le film. Donc, déjà, la situation a été changée. Donc, on a dû vraiment inventer un producteur. Après Prima de la Rivoluzione, qui en Italie a très très mal marché.
Alors que par contre en France il a eu un très bon accueil.
Oui, mais en France est sorti en 68.
Ah oui.
Tandis qu'en Italie est sorti en 64. Je crois que ces 4 ans ont approché mon film au public, ou le public à mon film. Ouais. C'est-à-dire, je crois que si le film était sorti en Italie en 68, aurait eu la même fortune qu'en France. En plus, il y a une chose assez étrange. L'argument du film, donc la crise d'un jeune bourgeois de province qui milite dans le Parti communiste et qui trouve que le Parti communiste souffre une maladie de révisionnisme. Tout ça a été dans Prima de la Rivoluzione, a coïncidé parfaitement avec la période où le film est sorti en France, début 68. Et ce qui est drôle, c'est que tout ça, toutes ces idées exprimées dans le film, c'était plus du tout mes idées dans le moment où le film sortait en France, dans le moment où il y avait les événements de mai. C'est-à-dire, c'est juste à ce moment-là que je suis entré dans le Parti communiste avec une confiance très grande.
Est-ce qu'il vous a paru de ce fait qu'il y avait un malentendu entre le film et le public?
Non, je crois que le film exprimait les idées que les jeunes gens à Paris, au quartier latin, qui étaient sur les bouches de tout le monde à ce moment-là. C'est pour ça que le film a reçu un très bon accueil. Même si, à ce moment-là, je crois, moi, j'avais mûri, c'est-à-dire...
Vous aviez changé vous-même par rapport...
Par rapport à l'époque où j'avais fait... Oui, j'avais fait le film, c'est-à-dire 4 ans avant.
Ce premier entretien entre Bernardo Bertolucci et Roger Pilaudin a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 20 septembre 1972. Dès le lendemain, les auditeurs purent en découvrir la suite et fin.
Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva scura, che la diritta via era smarrita.
Suite de l'entretien aujourd'hui avec Bernardo Bertolucci. Bernardo Bertolucci, fils de poète, frère de poète, poète lui aussi, plus connu comme cinéaste, d'abord assistant de Pasolini, puis auteur de Prima della Rivoluzione, Le Conformiste, La Stratégie de l'Araignée. Nous l'avons rencontré à son domicile au perché de la Via del Babuino. Bernardo Bertolucci est entré au Parti communiste en 1968.
Oui, c'est là où j'ai pris ma carte.
Vous savez que pendant tous les événements de mai à Paris, il a été beaucoup question de cinéma, d'états généraux du cinéma, toute une fermentation d'idées, de théories. Est-ce que ça a eu une quelconque influence sur vous? Tout ce qui s'est dit à ce moment-là, le cinéma qu'il fallait faire,
Évidemment. Surtout l'argument cinéma politique, ça m'a très intéressé et mes films en sont un peu l'épreuve parce que je ne dis pas que c'est des films politiques, mais c'est des films où la politique a une grande importance. Donc tout ça m'a intéressé, ça m'a plus qu'intéressé, ça m'a troublé, ça m'a posé des questions très profondes, soit personnelles, soit générales. Et là, je dois dire, je ne suis pas complètement d'accord avec, par exemple, avec la position de Godard ou d'autres amis français, c'est-à-dire... Je crois que tous les films sont des films politiques. Dans quel sens? Tous les films sont exploités par le système des pays où ces films viennent réaliser. Il faut se dire ça pour prendre conscience que même des films apparemment...
apolitiques.
Apolitiques puissent l'être.
Oui.
Je pense qu'il y a une grande différence entre cinéma politique et cinéma qui traite la politique. Cinéma politique, c'est le cinéma qui peut avoir un effet politique. Ça veut dire qu'il vient employer dans des situations spéciales, dans des situations contingentes. Je ne crois pas que des films, et je me mets pour premier, comme Le Conformiste, qui est un film sur le fascisme, par exemple, ou comme Z, qui est un film sur le fascisme grec, ou comme La classe ouvrière, le film de Petri, qui est un film sur la situation dans les usines en Italie, et comme ça, soit des films qui peuvent changer quelque chose dans la situation réelle du pays. Je ne crois pas du tout. C'est-à-dire, je ne crois pas que ce genre de film que les gens voient dans le circuit normal, commercial, etc.
Et une influence.
A une influence. Je crois que...
Même comme prise de conscience de certains problèmes, de certaines questions.
Oui, mais une influence qui est vraiment presque rien. Quand le public voyait Z, je pense qu'avait la sensation, en ayant vu le film, d'avoir fait presque un acte de une bonne action. Oui, un acte de résistance, applaudissant à la fin, tandis que après qu'ils étaient sortis du cinéma et que la salle retombait dans l'obscurité, ils rentraient dans leur maison et rien s'était passé, absolument rien. Les films que je crois pourraient avoir un effet politique et qui l'ont, c'est des films faits et exploités en dehors de
du circuit
normal. Par exemple, en Italie, il y a les Maisons du Peuple et le circuit parallèle de ARCI, qui est l'association récréative italienne.
Des loisirs.
Où il y a la possibilité de montrer à une base très grande un certain nombre de films. Je crois qu'un bon effet politique peut l'avoir un film fait, par exemple, pendant l'occupation d'une usine, qui soit un film d'analyse sur les raisons pour lesquelles on a occupé, par exemple, l'usine. C'est-à-dire, ce qu'il y a toujours dans les films soi-disant politiques, c'est qu'ils ne sont jamais des films d'analyse, ce sont toujours des films de simples dénonciations. Ouais. Vous voyez, on dénonce sans jamais analyser. Donc, le public qui le voit se trouvera d'avoir une intermittence sentimentale à cause de la dénonciation, qui est évidemment un élément qui toujours peut attraper sentimentalement, mais au niveau de l'analyse, le public qui sort du cinéma se retrouva comme avant d'y être entré.
Ah, oui. Mais alors, à supposer que ceci soit possible, de faire des films d'analyse, comme l'exemple que vous avez donné, cela suppose qu'on va s'adresser à un public qui a déjà une certaine formation politique.
Oh, il y a des différents niveaux, c'est-à-dire on peut faire une analyse spécifique à un niveau très simple ou à un niveau plus compliqué, plus pour ceux qui ont déjà connu une certaine terminologie.
Est-ce qu'il y a eu des expériences dans ce sens-là, en Italie ?
Moi, personnellement, j'ai eu une expérience dans ce sens, qui est un petit film de 30 minutes que j'ai fait pour la campagne électorale du Parti communiste l'année dernière. Pendant les élections administratives, c'était un film sur la situation hygiénique à Rome, c'est-à-dire je suis rentré dans un hôpital et on est réussi dans trois quarts d'heure après lesquels on nous a foutu à la porte, à tourner dans les couloirs de l'hôpital, à faire des entretiens et à voir un peu qu'est-ce que c'était la situation où le cinéma n'était jamais rentré, parce que on a l'impression de rentrer dans l'enfer de Dante. Donc c'est vraiment une chance et un hasard que nous sommes réussis à rentrer avec une caméra dans l'ospedale di San Camillo ici à Rome, et on a pu filmer les malades dans les toilettes. Il y avait tellement de malades et tellement peu de place que les malades avaient été mis à côté des WC et partout dans les couloirs et à côté des fenêtres, avec des courants d'air qui rentraient, des choses assez impressionnantes quand même. Et à partir de cette petite séquence de documentaire très shocking, on a démarré avec une analyse sur la situation
générale
à Rome. Et le film a été projeté dans les rues, dans tous les quartiers à Rome, comme ça. Il a eu...
Sans difficulté ?
Pas du tout, parce que ça faisait partie de la campagne électorale.
Ah oui.
Oui, évidemment, il y avait des difficultés techniques parce que le projecteur était placé sur le toit d'une voiture, l'écran était le mur de la maison de l'autre côté, disons, de la rue,
ouais.
Et entre le projecteur et le mur, c'est-à-dire l'écran, il y avait des voitures qui passaient, certaines fois, déjà, ouais. Qui passaient. C'était assez intéressant comme expérience.
Mais ça devait être aussi intéressant de voir les réactions du public.
Oui, parce que le public envoyait 10 minutes après le parti. Après, il y avait les gens qui restaient, les gens qui passaient, qui voyaient qu'une partie, qui avait certains genres d'émotions. Et après, ils s'en allaient avec quelques images. C'était assez intéressant, oui.
Néanmoins, vous continuez à faire des films de fiction.
Oui, parce que j'aime beaucoup les faire.
Mais alors, vous distinguez complètement un cinéma qui aurait une action politique telle que vous l'avez définie, et un cinéma qui traite de sujets quand même politiques, mais dans l'action,
oui,
lesquels
je,
vous ne croyez
c'est-à-dire
pas.
C'est-à-dire, je ne fais pas une distinction schizophrénique, j'essaie de ne pas la faire, mais il faut avoir conscience des limites qui le cinéma commercial vous impose, c'est seulement ça. Ouais.
Alors pourquoi avez-vous choisi le thème du fascisme pour le conformiste?
Est-ce que vous n'étiez pas à Rome hier après-midi?
Oui, je suis passé hier après-midi.
Vous n'êtes pas passé par hasard à côté
Piazza
de Piazza
Popolo.
Del Popolo?
Si.
Bon, vous aurez vu...
Pas par hasard.
50 000 personnes réunies pour entendre le discours du chef du parti néofasciste. Et bon, il y a 2 ans déjà, la situation était comme ça, c'est-à-dire il y avait une renaissance du fascisme en Italie. J'ai pris un roman de Moravia qui traitait du fascisme historique, et je fais un film que je pense n'est pas un film strictement historique, c'est-à-dire c'est un film sur la bourgeoisie en général. La bourgeoisie qui réinvente le fascisme tous les fois, que le prolétariat et la classe ouvrière avancent avec une intensité, une violence, une force. Je dis que ce n'est pas strictement un film historique parce que je pense que j'ai parlé du fascisme d'hier pour parler du fascisme d'aujourd'hui. La bourgeoisie italienne n'a pas tellement changé dans les derniers 30 ans. C'est pour ça aussi que j'ai une grande difficulté en ce moment à vivre à Rome, parce que c'est la ville la plus fasciste d'Italie, pour raisons aussi historiques, parce que le fascisme était habité à Rome, c'est-à-dire avait loué la ville de Rome, et donc il y a beaucoup de monde encore qui reste, de ce même genre-là qui était fasciste, hein, alors, et qui le sont encore aujourd'hui.
Mais est-ce que ça concerne des vieilles générations ou aussi beaucoup des jeunes?
Moi, je crois que depuis les récentes élections où les fascistes ont doublé leurs représentants à la Chambre des députés, mais même si ça a l'apparence d'une victoire, moi je pense que c'est un échec parce qu'ils croyaient d'avoir
beaucoup plus
que ça. Donc c'est quand même un échec. Je crois qu'on a fait des statistiques et on a trouvé que au Sénat, le Movimento Sociale, c'est-à-dire le parti fasciste, a eu plus de voix que à la Chambre de députés, au Sénat, où on peut voter qu'après 25 ans.
Ah oui.
Donc ça veut dire que les jeunes en général n'ont pas voté fasciste.
Puisqu'il faut vous poser une dernière question, que vous êtes très pressé, quel est le problème numéro un pour vous comme cinéaste italien aujourd'hui?
Je ne sais pas si c'est un problème pour un cinéaste italien. Je crois que c'est le problème de tous les cinéastes dans tout le monde. Je crois très simplement que le problème, c'est la nécessité d'arriver à une autogestion du moyen cinématographique dans tout son ensemble. C'est-à-dire, c'est un problème de liberté. Ça, c'est très important pour sortir de tous les équivoques, et qui sont nombreux, aussi très douloureux, souvent, dans lesquels nous nous trouvons.
Deux carnets romains consacrés par Roger Pilaudin à Bernardo Bertolucci ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 20 et 21 septembre 1972. Vous pourrez les réécouter en ligne ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.